Merci d'être venu. Du coup, je vais vous faire une conférence aujourd'hui sur, sur l'expérimentation animale au service de l'élevage intensif. Alors, je vais commencer par faire ce que les chercheurs ne font généralement pas, c'est que je vais me présenter et je vais vous dire à partir de quelle position je parle pour être transparente. Donc, je m'appelle Maria, je suis antispéciste. Je fais partie du collectif XR Animal qui organise cette journée aujourd'hui et j'ai une formation de chimiste. J'ai travaillé pendant 12 ans dans différents labos. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'expérimentation animale, je ne fais pas ça régulièrement, mais j'ai utilisé mon background pour faire des recherches, pour me documenter et pour écrire deux dossiers. Donc les dossiers, ils sont disponibles en bas si vous voulez les consulter. Ils sont aussi téléchargeables sur le blog d'XR Animal gratuitement. Il est libre de droit. Donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez les partager. Alors donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que l'expérimentation animale, c'est au service de l'élevage intensif. Donc brièvement, pour les personnes qui ne sont pas informées, l'expérimentation animale, c'est souvent synonyme de santé pour les humains. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en plus de pas du tout être efficace dans ce rôle-là, il y a une partie cachée qui va servir aussi à tout ce qui est exploitation animale. Et là, ça va être utilisé pour que les animaux puissent survivre aux conditions totalement misérables et horribles dans lesquelles on les place. Alors, on va commencer par un tout petit point sur l'expérimentation animale, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça s'appelle aussi vivisection, vous pouvez voir ce terme à plusieurs endroits. Et donc, c'est l'utilisation d'animaux comme des modèles. Alors, des modèles pour d'autres animaux, humains ou non-humains. Et alors, sur ces modèles, on va étudier la physiologie, donc comment se comporte leur corps, et leur réponse à différents facteurs extérieurs, alimentaires, environnementaux, des substances chimiques, des stress, divers et variés. Alors, il y a une définition qui est encore actuelle aujourd'hui et qui date de 1690, qui disait que l'expérimentation animale, c'est de l'expérimentation sur des êtres de moindre importance. Alors ça, c'est tout à fait le cas encore aujourd'hui. On teste en premier sur des animaux, mais on va aussi tester en second sur des humains qui sont sains, qui sont volontaires, mais qui ont besoin d'argent. Donc là, ce sont des humains rémunérés. Alors, les connaissances scientifiques totalement modernes montrent que l'expérimentation animale, ce n'est pas du tout la meilleure façon de faire, parce que justement, l'animal est un très mauvais modèle pour l'homme. Pourtant, tous les industriels et les gouvernements continuent d'appliquer toutes les expériences précliniques sur des animaux et se basent sur ces résultats douteux pour ensuite pouvoir tester sur des humains. Alors, petit biais en plus, tous les humains rémunérés, ou en tout cas une bonne grosse partie, sont des hommes blancs, entre 25 et 35 ans, en bonne santé, non fumeurs, sans surpoids, parce que ce sont les personnes qui vont avoir le moins d'effets secondaires. Donc là aussi, on teste pas beaucoup sur des femmes, pas beaucoup sur d'autres ethnies, pas beaucoup sur des personnes malades, ou en tout cas pas en premier lieu. Alors, on continue sur l'expérimentation animale. Alors, elle est très répandue, elle est généralisée, beaucoup plus secrète que ce qu'on croit, et c'est très, très rentable. En fait, c'est un commerce qui génère des milliards d'euros annuels. C'est financé en petite partie par les gouvernements, mais en majorité par les lobbies et par les industries. Alors, en termes de nombre, en 2019, ce sont les derniers chiffres qu'on a, pour l'Union européenne, c'est 10 600 000 animaux par an qui sont victimes d'expérimentation. Mais là-dedans, on ne compte pas la plupart des poissons, parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant vraiment vivants. On ne compte pas tous les animaux qui servent à la reproduction, et on ne compte pas tous les animaux qui meurent avant d'avoir même été expérimentés. Alors sur tous ces animaux, donc les 10 millions, on peut se dire que c'est peut-être 20 millions en fait, on peut évaluer la souffrance. Alors il y a une échelle de la souffrance qui va de 1 à 10, 5, on peut considérer que c'est une souffrance qui est moyenne. Et donc la moitié de tous ces animaux expérimentent au moins ça, donc une souffrance de 5 sur 10. Pour 15 à 20% d'entre eux, la souffrance est tellement extrême qu'il y a des risques de mort immédiate. Voilà. Et de toute façon, à la fin de quasiment toutes ces expériences, les animaux sont tués. Alors, soit ils sont tués immédiatement, soit s'ils n'ont pas eu de grosses séquelles, on les réutilise dans une autre expérience, mais ils sont quand même tués après. Donc, il y a vraiment très très peu de ces animaux qui s'en sortent. Et enfin, alors, l'expérimentation animale, c'est divisé en deux gros domaines. Donc, il y a tous les tests réglementaires, ça s'appelle des tests de toxicité. Et donc, sur ces tests-là, on va tester un peu tout et n'importe quoi. Tout nouveau produit qui doit être mis sur le marché. Un emballage alimentaire, un nouveau pesticide, un nouveau médicament, un pansement, voilà. Donc ça, ce sont des tests réglementaires. C'est encore obligatoire pour l'instant de faire de l'expérimentation animale en Europe pour ça, sauf pour les cosmétiques. Ça, c'est à part, ça commence à changer. Alors, il y a tout à fait des méthodes substitutives à ça qui existent, mais elles ne sont pas encore validées ou pas encore acceptées. Donc là, il y a un petit gap. Et alors pour tout ce qui est recherche scientifique, ce dont on va parler plutôt aujourd'hui, donc tout ce qui est fait en UNIF ou en institut, là, normalement, l'expérimentation animale n'est pas du tout obligatoire. Pourtant, elle reste quand même majoritaire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle reste majoritaire? Les chercheurs ont un méga bon argument, c'est ils veulent améliorer la santé humaine. Ça, c'est leur pub. Alors, pour améliorer la santé humaine, ils vont dire qu'ils essayent de faire des avancées dans la recherche médicale. Ils vont dire qu'ils essayent d'augmenter les connaissances médicales générales. Ou encore, un bien obscur, ils essayent d'atteindre le bien commun de l'humanité. Donc voilà, ça, ce sont leurs justifications. Du coup, on se retrouve avec une sorte de chantage émotionnel pour la plupart des gens. On va leur dire, si vous voulez être en santé, ou si vous voulez que votre enfant survive, ou que cette personne malade survive, c'est soit ce petit animal de laboratoire, soit un humain. Et donc, c'est un chantage émotionnel hyper spéciste. Ça continue à mettre l'humain dans une position de supériorité par rapport aux animaux. Et alors, je rappelle quand même que, comme j'ai dit tantôt, l'animal, c'est un très mauvais modèle, que ce soit pour l'homme ou pour un autre animal. Donc pour l'instant, on teste majoritairement sur des poissons et des rongeurs pour l'humain. Ça reviendrait un peu comme tester sur un oiseau pour un cheval. On est à peu près sur le même genre d'ordre de correct. Donc ça revient un peu à tirer à pile ou face. Alors, donc, la justification, c'est le bien commun. Pourtant, si on enlève tous les tests de toxicité et qu'on garde uniquement la recherche scientifique, on se rend compte qu'il n'y a que 2% de cette recherche qui a potentiellement un but à visée humaine. Ça veut dire qu'il reste 98% de tout ce qui est fait en université qui n'a pas du tout, en fait, ce but d'améliorer la santé humaine. Du coup, c'est quoi leur but? Quelles sont les finalités? Je ne vais pas toutes les développer, mais je vais les citer. Elles sont disponibles dans les dossiers et on peut en discuter un petit peu si vous voulez aussi. Donc, il y en a plein. Alors, pour modifier les résultats d'une étude, l'expérimentation animale, c'est super facile. On fait vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est donc très facile de créer des résultats qui vont à l'encontre de ce que les lanceurs d'alerte vont dire. Donc, par exemple, il y a une alerte sur le tabac, sur un nouveau pesticide, on va faire plein d'analyses sur les animaux, on va montrer qu'il y a quand même un petit doute qui existe là. Ça sert à créer une base scientifique pour avoir plein d'arguments commerciaux. Donc là, on peut penser au lait et au calcium, au bifidus actif qui était censé améliorer la digestion. Ça sert à créer plein de technologies aussi, mais qui sont utilisées uniquement dans le divertissement. Donc par exemple, la petite caméra sur votre téléphone qui suit vos yeux, ça vient d'expérimentation sur les singes. On a enlevé leur boîte crânienne, on a mis des électrodes sur le cerveau et on a vérifié comment les yeux bougeaient. Et de ça, on a inventé cette petite caméra. Et donc, ça sert pour divertissement, téléphone, pour la réalité virtuelle aussi. Alors, ça sert encore à créer des résultats très, très rapidement. Beaucoup plus rapidement que si on avait une méthode substitutive. Et du coup, là, l'intérêt, c'est de publier. Publier beaucoup. Les chercheurs ont une liste de publications par an, les labos ont une liste de publications par an, et ça, ça leur rapporte des subventions, parce qu'il y a un classement, en fait, de qui publie le plus. Et enfin, on n'oublie pas bêtement, ça sert à satisfaire la curiosité. Il y a plein d'expériences qui servent à rien d'autre que répondre à des questions qu'on pourrait tous se poser. Tiens, comment ça se fait que cet oiseau chante là? Eh bien, on va les enfermer, on va essayer de faire plein d'expériences juste pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Alors, dans toutes ces utilités parallèles qui ne servent pas au bien commun de l'humanité, il y a le fait que l'expérimentation animale, c'est un outil pour augmenter la production de l'industrie agro-industrielle. Donc là, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites pour que les animaux puissent juste survivre aussi, aux conditions dans lesquelles on les place, qui sont généralement assez horribles. Alors là, pour tout ce qui est agro-industriel, c'est financé et commandité par des gouvernements, mais par des lobbies, des industries, des regroupements d'éleveurs de bétail, des gens qui produisent du lait, voilà. Et on a ça dans les universités, donc généralement il y a un département spécifique pour ça. Donc par exemple à Liège, il y a un département de médecine vétérinaire qui ne fait que ça. Ils ont leur propre ferme, ils font les expérimentations dans des fermes et dans des labos. Et alors il y a aussi des départements régionaux. Donc on en a un en Wallonie, c'est le Centre Wallon de Recherche Agronomique. Et il y en a un en Flandre, c'est l'Institut Flamand de Recherche pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation. Eux, ils ne font que du service et du support pour les agro-industriels, rien d'autre. Et alors, je suppose que tout le monde a au moins entendu parler une fois de l'INRAE, donc ça c'est en France, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Alors eux sont les champions, ils sont capables de sortir des conclusions d'expériences très longues qui disent que, par exemple, aucun élément scientifique ne peut prouver que le gavage est une source de mal-être. Donc même pas de douleur, mais juste de mal-être. Et ça, c'est directement utilisé par le gouvernement pour faire une loi qui autorise le gavage. Donc là, on a toute cette expérimentation animale qui ne sert pas du tout au bien-être humain. Il peut y avoir des contre-expertises, ça arrive assez régulièrement. Et là, on voit que, comme avec toutes les expérimentations animales, les animaux sont génétiquement modifiés et bien choisis. Il y a plein de biais méthodologiques et il y a plein de résultats cachés. Parce que pour l'expérimentation animale, on n'est pas obligé de divulguer tous les résultats. Ce n'est pas la même chose en expérimentation substitutive. Alors, quels sont les vrais objectifs de ces agro-industriels qui font de l'exploitation animale et qui utilisent l'expérimentation animale? Donc il y en a trois. Le premier, il est assez évident, c'est optimiser la production de matières premières qui est commercialement intéressante. Donc là, on veut que les animaux survivent, mais on veut aussi qu'ils produisent plus. Donc plus de chair, plus de peau, plus de sécrétion, plus de lait, plus de miel, plus d'œufs. Là, c'est le volume commercial qui est visé. Alors pour ça, on fait de la sélection génétique. On va par exemple modifier les vaches pour que le lait soit plus protéiné. On va modifier des brebis pour qu'elles n'aient pas de cornes. Comme ça, on peut les entasser un peu plus au même endroit. Et on va aussi essayer de les rendre plus résistants à des maladies. Donc par exemple, la salmonellose qui tue pas mal d'animaux. Donc là, tout ça, c'est des animaux sélectionnés génétiquement qu'après, les personnes vont consommer. Alors, pour optimiser aussi la production de matière, ils vont se baser sur l'alimentation. Donc là, il y a toutes des études qui vont juste analyser quelle est la meilleure façon de nourrir tel type d'animal. Et ensuite, on va essayer de réduire absolument les coûts. Donc un animal qui est par exemple un herbivore, on va dire « Ah, pas loin, il y a des oliviers, on va essayer de lui donner des feuilles d'olivier. » C'est pas du tout ce qu'il est censé manger, mais potentiellement, il arrive quand même à prendre du poids puisqu'il est modifié génétiquement. Donc là, il y a tout un pan qui veut juste essayer de switcher l'alimentation idéale des animaux pour qu'elle soit le moins chère possible et donc rendre tout ça plus rentable. Et enfin, pour optimiser la production, on va essayer de garder les animaux en bonne santé. Alors là, c'est pas du tout pour leur bien-être, parce que c'est à coup d'antibiotiques, de médicaments, de vaccins. Les expériences là, elles sont plutôt cruelles, parce que ça consiste à d'abord rendre les animaux très très malades, au bord de la septicémie souvent, et de ne pas leur donner le bon médicament, mais d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils survivent quand même. Donc là, c'est quand même des expériences qui sont très douloureuses. Ok, donc on a vu l'optimisation de la production. Maintenant, le deuxième objectif des expérimentations, c'est de maximiser la consommation des produits. Donc là, c'est plus à viser pour les animaux, c'est à viser pour nous. Donc on l'a, tous ces laboratoires font des études sur des enfants. Ils essayent de vérifier à partir de quel moment ils ont des habitudes alimentaires. Et donc de modifier ça, d'essayer de trouver les paramètres qui vont leur faire manger de la viande plutôt qu'une pomme, par exemple. Donc là, il y a toutes des études comportementales. Et alors, il y a aussi toutes des études qui essayent de comprendre pourquoi la société actuelle consomme moins de viande. Éthiquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour faire penser qu'il y a plus de bien-être animal et que donc les gens reconsomment de la viande. Donc là, c'est plus des études comportementales sur des humains. Et enfin, les agro-industriels font des expériences sur les animaux pour s'attaquer aux conséquences involontaires de leur industrie. Donc là, on parle de sécurité alimentaire pour les humains, on parle d'agents pathogènes zoonotiques, on parle de résistance aux antibiotiques et de pollution due à tous les déchets d'industrie. Donc, l'année passée, par exemple, il y a des chercheurs qui ont étudié une nouvelle zoonose qui est en fait déjà en train de passer à l'humain. Donc ça, on n'en entend pas trop parler, ça s'appelle la fièvre Q. Et donc c'est une zoonose qui est chez les bovins, mais qui passe déjà aux humains dans les élevages. Et alors il y a déjà des recommandations pour les médecins au cas où ça sort et que nous, on devient tous contaminés. Il y a aussi des expériences pour les déchets animaux. Donc là, ce sont des expériences où on va par exemple prendre des cochons, on va les mettre sur une litière, et pendant un an, cette litière ne sera pas changée. Et donc le but, c'est d'essayer de, à la fin de l'année, récolter toute la litière, peser ce qu'il y avait et voir combien de déchets ont été produits par autant de cochons. Donc là, l'année passée, ils ont vu que c'était 220 kg par animal qui était resté dans cette litière. Donc ça, c'est ce genre d'expérience. Et alors, la résistance aux antibiotiques. Comme les humains consomment beaucoup d'animaux et que les animaux eux-mêmes prennent des antibiotiques, on devient un peu trop résistant. Donc là, il y a eu des demandes pour ne plus donner les antibiotiques corrects aux animaux pour que ça fonctionne encore sur les humains. Et donc, on va rendre des animaux malades. Souvent, c'est jusqu'au bord de la septicémie de nouveau. Et on va essayer de ne pas leur donner cet antibiotique-là, mais qu'ils survivent quand même pour qu'après, les humains puissent les manger. Donc ça, c'est les trois grands pôles de ce pourquoi, en fait, l'expérimentation animale est au service de l'élevage intensif. Alors, je vais quand même rappeler vite fait que l'exploitation intensive des animaux pour la nourriture ou pour les sécrétions, c'est 15% de la production de gaz à effet de serre, c'est une grosse déforestation, c'est 75% des terres qui pourraient être utilisées pour l'agriculture qui sont en fait utilisées par des animaux, c'est pollution de cours d'eau et c'est une production d'une alimentation carnée. Et ça, on sait maintenant que c'est quand même un gros cancérigène. Et alors, au final, ça maintient quand même un des gros piliers du spécisme qui est de continuer à utiliser des animaux et à les consommer. Et donc, quand on voit tout ça, on peut clairement se dire que ce petit but qui est annoncé et que tout le monde pense que ok, l'expérimentation animale, c'est pour améliorer la santé des humains, en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste pour améliorer le portefeuille des industriels. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions.
Aïe.
Oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Oh, attends. Ah oui, ok.
C'est juste par curiosité, j'avais entendu parler de la fièvre dont tu as parlé, qui se transmettait des bovins aux êtres humains.
Ouais.
J'ai pas entendu, j'ai entendu Q.
La fièvre Q, donc c'est la lettre Q.
Ah,
voilà.
Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cette fièvre
Alors non, je ne me suis pas documentée plus que ça, mais c'est une zoonose établie, parce qu'elle passe déjà par les bovins entre eux et aux humains dans les exploitations. Et il y a déjà des suspicions qu'elle soit aérienne. Donc là, ça ressemble à des choses qu'on a vécues récemment. Voilà. Derrière toi.
Oui, juste petite information, j'ai appris qu'au Salon d'agriculture à Paris, il y avait des ateliers pour que les enfants aient conscience que c'était bon de manger de la viande et qu'il fallait qu'ils en mangent.
Ouais.
Donc il y avait un journaliste à la sortie qui leur disait, mais est-ce que tu aimes? Et en fait, voilà, on essaye de montrer aux enfants qu'ils continuent à en manger, que ceux qui disent que ce n'est pas une bonne idée ont tort. Donc très tôt, à travers des ateliers pour enfants, on essaye de faire passer ça.
Mais, par exemple, l'expérience dont j'ai parlé pour les comportements alimentaires des enfants, le but qu'ils disent, c'est de faire en sorte que ça corresponde aux recommandations émises pour ce qu'il faudrait manger. Alors que quand tu regardes les recommandations et ce qu'eux proposent de consommer, ce n'est pas du tout le cas. Ça correspond en fait à la vision à long terme. Donc toutes les industries de l'agrobusiness ont une vision à long terme. Souvent c'est vers 2050. Et en fait ça correspond à ce qu'eux proposent de consommer en 2050. Donc ce n'est pas du tout actuel. Ouais. Merci.
Je peux demander ma question en anglais?
Yes. Go ahead.
What's your attitude regarding doing animal experiments or improving the welfare of the animals themselves for developing medicine against animals or vaccines or just research to improve the welfare of farm animals? What's your opinion about that?
I don't think it's good because I don't think there should be farming animals.
Yes, so they are there.
Yeah, so. Yeah. That's what we call welfare washing. Some people agree with that, but I'm more of an abolitionist, so I'm not pro welfare studies. Ah oui, est-ce que je dois traduire ce que j'ai dit? Non, ok, super.
But it's also sometimes they use animals in experiments also to help wild animals against infections, diseases. So you're also against that?
Yes, because what they do is that they use a similar animal, like they are going to use dogs for wolves. And like I said, an animal is not a model for another one. You cannot compare them. They're not in the same environment. They're not wild. So the results should be completely biased. Yeah, so I'm against that too.
Tu as parlé tout à l'heure de différentes solutions pour empêcher la vivisection. Est-ce que tu pourrais en donner quelques-uns par hasard?
Ouais. Alors il y a plein de méthodes alternatives substitutives qui existent. Par exemple, on peut reproduire des organes humains sur des micropuces maintenant. Et donc là, tu peux avoir des résultats qui sont hyper intéressants parce que tu as le schéma, par exemple, de digestion humain. Sur une micropuce, et donc là tu peux tester par exemple des remèdes à des maladies digestives. Il y a tout ce qui est culture de cellules humaines aussi, donc là c'est assez simple, généralement on fait un curetage chez des gens ou on fait des biopsies, on demande si on peut utiliser les cellules et on teste directement sur les cellules des humains. Donc là les résultats que tu peux avoir sont beaucoup plus fiables. Voilà, il y a par exemple ça.
Ces études-là ont déjà demandé du coup passer l'utilisation d'animaux?
Alors, oui et non, parce que les études, donc les vieilles méthodes ont été comparées aux animaux. Les méthodes modernes qui sortent maintenant, comme par exemple l'utilisation des puces, ça passe pas du tout par l'expérimentation animale. Et c'est un peu ça le problème pour l'Europe, c'est que du coup, ça prend à peu près 7 ans pour valider une méthode. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des méthodes qui sont utilisables demain. Voilà.
Je présume aussi le coût financier.
Oui, C'est ça.
C'est d'avoir des animaux.
C'est plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Et pour l'instant, la législation le demande. Du coup, ils n'ont pas forcément envie d'investir pour ce qui pourrait être légiféré dans 10 ans. Ouais. Merci à toi.
J'avais du coup aussi une petite question.
Dis-moi.
Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire pour tenter d'aller à l'encontre de l'expérimentation animale ? Est-ce qu'on a des outils individuels qu'on peut mettre en place ?
Individuel, c'est compliqué. Bon, il y a toutes les pétitions, il y a des pétitions avec SEA, il y a écrire des courriers au ministre, donc le ministre Tellier, enfin la ministre Tellier par exemple, qui met des bâtons dans les roues aux nouvelles réformes. Après, il y a essayé de consommer certains médicaments quand c'est possible, qui ne sont pas testés sur les animaux. Mais bon, en cas de maladie, si vraiment tu dois prendre un médicament, ça devient compliqué comme choix éthique. Voilà. Mais en tant que citoyen, à part faire porter notre voix, on n'a pas grand-chose à faire, non. Il n'y a pas beaucoup de choix.
Juste profiter que tu lances la perche. SEA est justement ici aujourd'hui et Solange organise 4 ateliers pour, avec un petit dessin animé pour sensibiliser en fait, les enfants aux dangers éthiques et scientifiques de l'expérimentation animale. Donc, si vous êtes parent ou enseignant, elle va dans les classes pour vraiment sensibiliser les enfants à cette problématique. Donc ça aussi, c'est un geste qui est simple à faire pour préparer aussi les futures générations à une autre mentalité envers nos amis, les animaux.
Trop bien. Il y a encore des petites questions ? Vas-y.
Moi, j'en ai une, mais c'est un peu une curiosité gore, entre guillemets, c'est comment rendent-ils les animaux malades à un tel point qu'ils sont proches du décès, etc. Est-ce que tu t'en sais un peu plus là-dessus ?
Ouais, alors soit c'est... Ouais. Soit c'est les conditions simplement dans lesquelles ils sont placés. Donc, par exemple, pour qu'ils aient beaucoup de vers, ils vont leur donner de la nourriture contaminée. Ils ne vont pas leur donner de vermifuge, parce que normalement, ils sont vermifugés. Et ils ne vont pas changer les paillasses, par exemple. Donc ça, c'est un peu... pour qu'ils aient des septicémies, ils vont faire des plaies et ils vont mettre des excréments dedans. Voilà. Et puis après, tu as tout simplement des animaux qui sont génétiquement modifiés pour développer des pathologies. Là, on est plus sur des petits animaux. C'est plus difficile avec des grands animaux, mais typiquement les rats, les souris, les chiens... là, on fait en sorte qu'ils soient malades de naissance. Voilà. Mais c'est pas très gai, effectivement. Voici, c'est tout. Je vous remercie d'être venu et passez une bonne journée.